Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro, qui est là pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Équiterre lançait, il y a déjà de ça quelques semaines, en fait, au début du mois d'avril, sa campagne d'abonnement au panier bio, une initiative de plus en plus appréciée, de plus en plus connue des Québécois, avec cette année plus de 500 points de livraison de services à travers tout le Québec, à travers la province. Donc, en deuxième partie d'émission, Isabelle Jonca, elle qui est agronome chargée de projet pour le réseau des fermiers de famille chez Équiterre, nous invite à s'inscrire sans tarder afin de recevoir nos paniers de fruits, de légumes locaux et bio tout au cours de l'été. Et puis, la deuxième journée du défi sportif Altergo est bel et bien entamée. Et aujourd'hui, avec Nathalie Barcelo, elle qui est physiothérapeute chez Kinatex Sport Physio, également responsable du médical depuis 21 ans, mais ça, elle n'aime pas qu'on le dise, elle trouve que ça la vieillit. on discute, oui, médecine du sport, mais aussi de la préparation des athlètes paralympiques. On l'écoute à l'instant. Nathalie Barcelo, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez en ce moment au complexe sportif Claude Robillard pour la deuxième journée du défi sportif. Est-ce que l'énergie est bonne?
Oui, il y a toujours beaucoup d'énergie au défi sportif.
Nathalie, ça fait 26 ans que vous participez au défi sportif Altergo. 21 ans comme responsable du médical. La flamme est toujours là de votre côté?
Oui, oui, chaque année. Puis en fait, à chaque fois que ça recommence, je me dis « OK, c'est pour ça que je fais ça ». Parfois, j'ai des moments de doute. Ce n'est pas toujours facile de composer une équipe parce que l'événement grandit chaque année. Donc, il me faut de plus en plus de membres dans mon équipe médicale. Donc, c'est un peu un casse-tête. Mais une fois que c'est commencé, je sais pourquoi je suis là.
Ça signifie quoi être responsable du médical?
En fait, c'est moi qui coordonne l'équipe médicale qui couvre tous les sites de compétition du défi sportif pour la durée de l'événement. Donc, c'est à moi de valider le nombre de personnes dont j'ai besoin, de physiothérapeutes ou thérapeutes du sport, de par site, par jour, et de trouver donc ces personnes. Il y a Dr Roy qui est avec moi, pas physiquement, mais qui se rappelle, qui lui m'envoie des résidents en physiatrie. Qui ont dans leur pratique à côtoyer des gens avec des handicaps. Donc, ceux qui peuvent viennent aussi passer du temps sur les plateaux de compétition. Donc, je coordonne l'horaire de tous ces gens-là, les besoins matériaux, les trousses de premiers soins de physiothérapeutes, prévenir les hôpitaux principaux là, de la tenue de l'événement, urgence santé, pour qu'ils soient au courant qu'ils peuvent avoir des appels venant de nous pour cet événement-ci. Et puis, faire le lien là, entre le nombre d'athlètes et puis les besoins pour être là pour leur sécurité.
Nathalie, vous travaillez auprès des athlètes professionnels du défi sportif, des athlètes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Est-ce que l'approche est différente avec eux que d'autres athlètes qui ne vivraient pas avec des limitations?
Bien, c'est sûr que dépendant quelle est la limitation, parce que le défi sportif, c'est le seul événement au monde qui est pour les 5 types de déficiences au même endroit pour le même événement. Ils ont c'est pas tout physique, il y en a que c'est visuel, auditif, oui. Intellectuel. Bon. Donc, dépendant quelle est la déficience, l'approche va être différente. Ils ont peut-être moins d'endurance ou ils travaillent pas comme les athlètes qui sont en fauteuil, ils vont travailler le haut du corps beaucoup plus que vous et moi, disons. Puisque leurs bras remplacent leurs jambes en quelque sorte pour se déplacer, donc ils vont avoir certaines conditions qui ou certaines blessures de surutilisation qui vont être différentes. Un athlète de basket en fauteuil versus un athlète de basket debout. Ça va être différent, les blessures et la préparation.
Donc, j'imagine, Nathalie, il faut avoir quand même une bonne vue d'ensemble, bien connaître les sports et leurs impacts sur les athlètes.
Oui, ben, tout le monde qui fait du terrain, que ce soit physiothérapeute ou thérapeute du sport certifié, a une vision un peu différente de qu'est-ce que c'est de voir performer que quelqu'un qui est seulement en clinique. Mm-hmm. Donc, oui, ben, il faut connaître les différents sports, les différentes activités.
Et ça, c'est assez intéressant parce que habituellement, Nathalie Barcello, bon, vous êtes physiothérapeute, vous travaillez chez Kinatex Sport Physio, donc en clinique. Mais là, c'est sur le terrain. Vous venez de le dire, ça doit changer complètement l'approche.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas là pour le long terme. On est là pour, bon, s'il y a des gens, quand c'est les enfants la semaine, on est plus là pour les premiers soins, en fait. Ou si quelqu'un a une blessure ou a une crise d'épilepsie ou a une fracture, c'est très rare, là, mais ça peut arriver. Mm-hmm. Donc, c'est plus pour les premiers soins sur le terrain, pour qu'ils puissent continuer à jouer. Mais bon, les athlètes qui sont plus au niveau professionnel ou international, si on parle de l'escrime, puisqu'il y a la Coupe du monde ici d'escrime en fauteuil, il y en a qui auront déjà des blessures, donc ça se peut qu'ils viennent nous voir avant pour nous dire, bon, moi j'ai besoin d'un taping pour mon poignet, pour mon coude, pour tel truc. Donc ça, c'est de la prévention. Donc, on fait là un peu de prévention pour ceux qui ont déjà quelque chose. On fait les premiers soins et après, on décide si la personne peut retourner jouer ou pas, à la compétition ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse y retourner. Donc, c'est différent qu'en clinique où on voit quelqu'un qui a déjà une blessure et qui doit faire une réadaptation pour retourner après au sport, mais dans une semaine, trois semaines, un mois, deux mois, dépendant de ce qu'ils ont.
Donc, Nathalie, si j'entends bien, c'est vous qui devez dire à des athlètes, dans certains cas, « Désolé, tu dois arrêter la compétition ».
Oui, c'est ça.
Oh, c'est une grande responsabilité, ça?
Oui, mais bon, on leur explique le pourquoi. C'est sûr que dans le cas des adultes, ils sont majeurs et vaccinés, donc c'est pas... si quelqu'un décide de quand même continuer, je veux dire, à moins que ce soit vraiment très grave, là, on peut pas vraiment les empêcher, mais on leur explique là, les conséquences ou les séquelles possibles de retourner, ou si c'est... Évidemment, si c'est quelque chose comme une commotion, ils n'auront pas le choix, ils ne retournent pas, là, mais voilà.
J'imagine que la collaboration avec l'entraîneur aussi de l'athlète...
Oui, exactement.
Oui. Et je reviens un petit peu au terrain versus la clinique. Je pense que dans le cadre du défi sportif, vous travaillez au sein de l'unité mobile.
Bien, c'est Kinatex, ce qu'on appelle une unité mobile. Donc, c'est une division qui s'occupe de, justement, pour différents événements sportifs, pas seulement le défi, là, mais pour d'autres événements, de trouver les thérapeutes et d'avoir le matériel requis pour pouvoir couvrir un événement, justement, une compétition ou, à long terme, une équipe, disons, une équipe de soccer, un club de soccer va prendre pour son équipe, pour ses équipes, disons, d'élite, les services de Kinatex Mobile pour avoir des physios à tous les matchs, puis avoir l'équipement, puis tout ça. Donc, ça, ça fait partie de l'unité mobile, comme on dit.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des athlètes dans le cadre d'événements sportifs, du défi, entre autres, et après d'avoir à les suivre en clinique quelques mois ou semaines,
Oui, au hockey luge, au goalball, différents sports, plus chez les adultes que les enfants, là, mais oui.
Parce que le lien doit être important entre le physiothérapeute et l'athlète. Je parle du lien de confiance. Il y a le lien thérapeutique aussi, mais il faut prendre le temps de l'installer. Bien sûr, quand on est sur le terrain, ça va vite. Peut-être qu'on a un petit peu moins le temps, mais c'est une prémisse toutefois.
Oui, il faut... Bien, souvent, les athlètes qui sont justement adultes, là, ils reviennent d'année en année. Donc, ils finissent par nous connaître, même s'ils n'ont pas eu besoin de nos soins. Donc, il y a déjà un lien qui se crée, mais c'est sûr que par le défi sportif, ça m'a permis aussi là, de travailler avec, disons, l'équipe du Québec de hockey luge, l'équipe canadienne de goalball. Oui, ça, c'est des liens qui se sont créés ici puis qui ont continué ailleurs pour d'autres... à d'autres événements.
Oui, d'ailleurs, avec l'équipe médicale canadienne, vous avez participé aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004.
Oui,
c'était avec l'équipe de goalball féminin. Pourquoi s'intéresser...
Qui ont gagné la médaille d'or cette année-là, d'ailleurs.
Grâce à vos bons soins, peut-être, Nathalie Barcello.
Non, pas juste moi.
Entre autres. Pourquoi s'intéresser à des athlètes qui vivent avec des limitations?
Ben, au tout début, c'était une expérience. J'étais à Concordia en athletic therapy, puis on avait un cours qui s'appelait Adapted Physical Activity, donc activité physique adaptée, et donc où on parlait de ces différents sports adaptés. Donc c'était par curiosité, puisque j'avais déjà travaillé avec d'autres équipes où j'allais travailler, non, où j'avais travaillé avec du hockey universitaire, puis tout ça. Donc là, c'était pour voir autre chose. Mm-hmm. Et puis après ça, bon, ben c'est devenu un rendez-vous annuel.
Et de continuer à vous intéresser à ces athlètes-là qui ont, bien sûr, des défis bien particuliers parfois à relever.
Oui, oui, leur quotidien, ça n'a rien à voir avec le mien ou le vôtre ou celui de la majorité des gens, là. Mm. Mais c'est ce qui fait parfois que, justement, ils vont peut-être se pousser à se dépasser plus. Je veux dire, j'ai rencontré des athlètes paralympiques qui m'ont déjà dit « Moi, si j'avais pas eu mon accident, ben j'aurais peut-être mal tourné ou ouais. je serais pas ici, disons, à Athènes, je serais pas ici à des jeux majeurs, je serais, mm-hmm. je sais pas, chez moi seulement. » Ouais. Donc, ouais.
Avez-vous l'impression, pour côtoyer beaucoup d'athlètes, Nathalie Barcello, que les athlètes qui vivent avec différentes limitations se préparent différemment à ces compétitions de haut niveau?
Ben, je crois pas. Je veux dire, ils ont les mêmes, de plus en plus, les associations sportives canadiennes, chapeautes. Avant, c'était très séparé, tout ce qui était para, puis tout ce qui était olympique régulier. Mm-hmm. Mais maintenant, si on a Athlétisme Canada, ben tout le monde est sous Athlétisme Canada. Pareil pour cyclisme, pareil pour plein d'autres sports. Donc, ils ont accès aux mêmes professionnels, disons, mm-hmm. les nutritionnistes, ben ça c'est à haut niveau, là, évidemment, on parle de haut niveau, là, mais nutritionnistes, médecins du sport, psychologues sportifs, tout ça, là, donc je crois pas que c'est différent, c'est sûr que c'est adapté à leurs limitations, mm-hmm. Mais c'est fait avec la même intensité, des fois peut-être mm-hmm. même plus, comme je disais, ouais. là, mais oui.
Évidemment, je voulais vous parler de tout votre boulot lié à la médecine du sport. Qu'est-ce qu'on entend par médecine du sport? C'est, bon, j'imagine que c'est de s'intéresser aux soins des athlètes.
Oui, mais c'est surtout, c'est le principe que l'athlète va pousser son corps plus loin que monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Les limitations vont être plus loin. Donc, après ça, je veux dire, c'est le retour au jeu, le retour à la compétition. C'est pas comme juste quelqu'un. Mais de plus en plus, même les gens qui sont pas des athlètes de haut niveau, de plus en plus de gens sont actifs. Beaucoup de gens courent, font oui. du CrossFit, vont jouer au tennis, vont skier. Beaucoup plus de gens bougent qu'il y a 20 ans, disons. Donc, les gens veulent pas seulement être capables de juste marcher, courir après le bus et puis faire leur journée. Beaucoup de gens ont des buts plus élevé que ça, donc mais un athlète, ça va être encore plus spécifique et plus important, ou ben pas plus important, mais plus spécifique et puis ouais. plus souvent dans le temps, on a des limitations parce que la compétition s'en vient, parce que les jeux s'en viennent, parce que il faut retrouver le niveau qu'on avait avant la blessure, donc mm-hmm. qui est quand même pas le même niveau que je veux dire, encore que moi, mettons là, ouais. je veux dire. Donc c'est ça qui est différent et c'est ça qui est stimulant aussi.
Ouais. J'imagine aussi que quand on parle de médecine du sport liée à un athlète, des soins que l'on offre à un athlète, il y a tout le côté interdisciplinaire. Ce que j'entends par là, c'est que, bon, vous êtes physiothérapeute, mais vous travaillez avec le nutritionniste, avec l'ostéopathe, avec le massothérapeute, avec l'entraîneur. Ça devient une équipe autour de l'athlète.
Oui. Oui, ben oui, monsieur, madame, tout le monde aussi, mais beaucoup plus l'athlète. L'athlète, ça va être vraiment très important qu'il y ait une communication entre l'athlète, le coach, le médecin, le masso, le nutritionniste, le psychologue, le physio et parfois d'autres spécialistes, là, dépendant s'ils ont besoin d'une chirurgie ou un orthopédiste. Donc oui, il y a toute cette approche multidisciplinaire qui est beaucoup plus présente. Mm-hmm. Et il faut garder un lien puis la communication en tout ce monde-là.
Mm-hmm. Bien sûr. En terminant, Nathalie Barcello, vous demandez, vous qui avez un œil sur le défi sportif, là, même d'un point de vue interne depuis plusieurs années, 26 ans maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est un événement qui a bien évolué?
Ah oui, mon Dieu, c'est. Je regardais une lettre que j'avais écrite pour à envoyer aux cliniques près des sites de compétition en 2005, donc il y a 10 ans.
Ouais.
Et il y avait juste 2700 athlètes, puis je dis juste avec des guillemets, puis avec un petit sourire, parce que c'est quand même oui. autant d'athlètes que pour les Jeux d'hiver de Vancouver, là. Ben bon. Maintenant, il y en a plus de 5000,
ouais.
Donc c'est le double. Et. Et puis, il y avait 4 sites de compétition. Maintenant, il y en a 8.
Ouais. Ça aussi, c'est le double. Hein?
Ouais. Oui, il y avait beaucoup moins de bénévoles que maintenant pour entourer tous ces gens-là, puis pour que l'événement puisse fonctionner, puis bien aller de A à Z. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup... Ça a explosé. Ben, ça a explosé. Ça a été progressif, mais je veux dire, quand même, 10 ans, c'est pas si long que ça, puis ça a doublé. Mais si on regarde 10 ans avant ça, donc il y a 20 ans, c'était... encore plus petit, c'était 2 ou 3 sites de compétition, peut-être 1000 athlètes, je ne sais plus, il faudrait que je regarde les statistiques, là, mais ça grandit. Bon, des fois, je me dis, j'espère qu'ils vont arrêter.
Oui, parce que je me disais, en vous écoutant, Nathalie, double d'athlètes, double de travail pour vous et de blessures.
Oui, mais c'est, comme je disais, c'est surtout pour m'assurer d'avoir une bonne équipe. C'est pas toujours évident parce que maintenant, avant le défi sportif, ça durait que 5 jours. Ça commençait le jeudi puis, ou le mercredi, pardon. Et puis jusqu'au dimanche. Mais là, c'est toute la semaine, c'est 7 jours. Donc, les gens qui sont dans mon équipe, ben, ils ont un travail, un boulot qu'ils ont toute l'année. Donc, c'est pas tout le monde qui va prendre des jours ou des heures de congé pour être au défi. Il y en a plusieurs qui le font, par contre, qui modifient leur horaire pour pouvoir être ici. Mais c'est pas évident. Donc, et il faudrait pas que ce soit, ben je veux dire, faudrait pas que ça continue à grandir ou non, c'est très bien, mais je veux dire, il faut pas non plus, c'est comme dans bien des choses, des fois quand c'est trop, c'est pas bon non plus. Donc oui. Pour l'instant, c'est parfait. Mais bon, ça grandit, mais un petit peu à la fois.
Oui, ben voilà, Nathalie Barcelo, ben merci de le faire depuis si longtemps, de veiller à la santé des athlètes dans le cadre du défi sportif. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes physiothérapeute chez Kinatex Sport Physio. En fait, ce sont des cliniques qui offrent des soins, autant de physiothérapie, de réadaptation, de soins préventifs, on l'a dit, avec à peu près 300 professionnels de la santé. On parle ici d'ostéopathes, de massothérapeutes, d'acupuncteurs. Et vous êtes dans plusieurs régions du Québec, Kinatex. Donc, ben, continuez votre bon travail, Nathalie Barcelo, et surtout un très, très bon défi sportif à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Isabelle Jonca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome chargée de projet pour le réseau des fermiers de famille chez Équiterre. Et ça fait maintenant 20 ans que le réseau des fermiers de famille d'Équiterre existe, créé en 1995. Et j'ai l'impression que chaque année, ça gagne en popularité. Ça connaît vraiment une belle croissance, Isabelle.
Ah oui, c'est vraiment une formule qui est de plus en plus populaire, de plus en plus connue et de plus en plus tendance, si on veut. Là, on se rend compte que les gens sont fiers maintenant d'avoir leur fermier de famille et de manger des légumes locaux, des légumes frais, des légumes biologiques. Alors, c'est vraiment, on constate vraiment un engouement.
Êtes-vous capable d'évaluer à peu près combien de Québécois qui ont un panier bio chaque été?
Oui, en fait, comme le rôle d'Équiterre, c'est de coordonner le réseau québécois des fermiers de famille, on regroupe dans ce réseau-là 100 d'agriculteurs qui nous donnent chaque hiver leur prévision de nombre d'abonnements. Chacun, il y a des fermes qui vont commencer sur des petites superficies avec 25-30 abonnés et d'autres qui vont prendre 400-450 abonnements pour toute la saison estivale, même d'autres qui vont offrir aussi des possibilités pour les paniers d'hiver. Donc cet été, les fermiers de famille proposent 13 000 abonnements. Donc, on estime que chaque abonnement, bien souvent, c'est plus que pour une personne. Des fois, ça va être pour une famille, 2, 3 ou 4 personnes. On pense qu'au Québec, dans les 500 points de livraison à travers la province, il va y avoir près de 39 000 personnes qui vont consommer des légumes le bio et frais directement de leur fermier de famille.
Oui, qui vont pouvoir en bénéficier. Bien sûr, ça a des impacts extrêmement positifs sur la consommation de bons fruits, de légumes bio. Les enfants, les familles en consomment davantage, mais des retombées économiques énormes aussi, Isabelle. Je disais, c'est des millions de dollars là, que ça contribue à ramener beaucoup d'argent au Québec.
Oui, c'est certain. C'est certain que l'agriculture au Québec, vraiment, c'est un moteur économique important. On sait qu'au Québec, il y a près de 30 000 entreprises agricoles. C'est sûr que la centaine d'agriculteurs qui font partie du réseau que coordonne Équiterre, c'est une petite proportion de producteurs qui font en bio dans les régions. Il y a beaucoup de producteurs qui font aussi des légumes biologiques, mais qui vont pas nécessairement les mettre en marché sous la formule d'abonnement. Excusez. D'abonnement au panier bio. Donc, il reste que pour ces entreprises-là, c'est de la création d'emplois dans des villages, c'est des fermes qui ont les moyens d'acheter des intrants, des outils, qui vont avoir les enfants qui sont à l'école dans leur région. Donc, on se rend compte que c'est vraiment quand même un moteur important pour la ruralité, mais c'est pas le seul et on peut pas dire que c'est ça qui révolutionne le paysage agricole du Québec, mais de plus en plus, il y a des jeunes agriculteurs qui souhaitent ce mode de mise en marché-là, ce mode-là de production pour démarrer une entreprise agricole. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça intéresse beaucoup les néo-ruraux, si on veut, les jeunes agriculteurs qui sont pas issus d'une famille agricole et qui ont le goût de contribuer à nourrir leurs concitoyens de façon raisonnée.
Oui. Est-ce que sur cette centaine de fermiers, toutes les fermes sont qualifiées bio?
Non, on a des fermes qui sont dûment certifiées biologiques et on a des fermes qui sont en démarche de certification, donc des fermes qui sont dans leurs 3 ans de transition. Donc, elles n'ont pas le droit, là, de par la loi au Québec, qui est bien sévère et elle a bien raison de l'être, qui n'ont pas le droit de se dire bio. Et des fermes qui sont à l'étape de la pré-certification, c'est-à-dire l'année qui précède leur certification. Donc, des fermes, exemple, qui vont recevoir cet été là, leur certification dûment. Alors, sur le site Internet qui est Équiterre, là, où on liste tous les points de livraison, où il y a une carte pour facilement s'y retrouver, c'est le site panierbio.org, panier avec un S. On retrouve là une liste à part des fermes qui sont en démarche, donc qui n'ont pas encore reçu la certification. Donc, pour le public, il y a pas moyen de se mélanger ou de...
Je pense, Isabelle, que la grande popularité qui est liée au panier bio, c'est la souplesse. Vraiment, il y a beaucoup de flexibilité.
Oui, et de plus en plus parce qu'on est à l'écoute des consommateurs aussi, même des gens qui se sont désabonnés. Il y a 2 ans, on a fait un plan stratégique et on a questionné des gens qui avaient quitté la formule et on leur demandait qu'est-ce qui leur avait pas plu. Et donc, pour bien répondre aux demandes des consommateurs et à notre mode de vie aussi, de plus en plus, on est pressé, c'est la garderie, on finit de travailler plus tard, des horaires qui changent ou des habitudes alimentaires qui diffèrent. Donc, la plupart des... En fait, maintenant, toutes les fermes ont le panier d'échange au point de livraison. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je ne m'abonnerai pas au panier de légumes parce que je ne mange pas d'oignons puis je n'ai pas envie de m'en faire donner, je vais les gaspiller. À chaque fois qu'il y a un légume qu'on n'a pas le goût d'avoir ou on a encore des betteraves de la semaine d'avant, on les laisse dans le panier d'échange puis on prend d'autres choses qui nous plaît plus. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est un contenu de panier qu'on ne décide pas nous-mêmes à chaque semaine. Ce serait vraiment beaucoup, beaucoup de gestion pour les fermiers de famille. Donc, pour leur faciliter la vie, on laisse les producteurs faire des paniers assez semblables pour tout le monde. L'autre chose, c'est que la plupart des fermes, maintenant, offrent aussi la possibilité de nous laisser partir en vacances, puis revenir, puis suspendre nos paniers pendant la période des vacances. Donc, ça, c'est une autre belle flexibilité. Les heures aussi de point de livraison, généralement, c'est une coupe d'heures là, qui va être permise. Donc, si on ne peut pas ramasser notre panier à l'heure précise, c'est une flexibilité aussi par rapport à ça.
Puis en même temps, tous les lieux de livraison, là, on parle de 7 stationnements incitatifs de l'Agence métropolitaine de transport, 30 marchés d'alimentation métro participants, c'est une belle initiative de métro, 500 points de service, donc près du boulot, près de la maison, c'est difficile de manquer notre lieu de rassemblement.
Oui, c'est ça, avec métro, c'est un très beau partenariat, puis on a sondé les gens qui rencontrent leur fermier de famille dans le stationnement des épiceries métro, ils trouvent ça très pratique, parce qu'en même temps, ça leur permet de faire des emplettes en plus. Alors, on apprécie vraiment ce partenariat-là. C'est des grands espaces qui sont mis à disposition, là, vraiment. Et puis, oui, effectivement, les gares de train, d'autres endroits. Puis, ce qu'on développe de plus en plus, c'est les points de livraison dans le milieu de travail. Mmh. Alors là, c'est le summum du pratique. On repart du bureau tout de suite avec notre panier sans avoir aller ailleurs. Et sur le site Internet d'Équiterre, il y a un guide pour les gens qui travaillent dans le milieu de travail qui voudraient implanter un point de livraison. Donc, les gens pourront regarder sur notre site Web là, comment s'y prendre ou nous contacter tout simplement.
Et dans le panier, on retrouve bien sûr des légumes, mais des fruits aussi, Isabelle.
Oui, la plupart, bien, en fait, ce qu'on retrouve en général, c'est de 6 à 12 variétés de légumes par livraison. Et il faut savoir qu'on retrouve les légumes de base. Il ne faut pas que les gens pensent que je m'abonne au panier bio, je vais avoir que du chou kale et du céleri rave tout l'été. Il y a eu, tu sais, des fois, les gens ont déjà mentionné ça, mais les fermiers de famille cultivent la base des salades que les gens aiment. On aime ça, les concombres, les tomates, les zucchinis, les haricots, les légumes de base de notre alimentation, les pommes de terre. Et il va y avoir des légumes souvent découverts en plus, comme justement des choux raves, des rabioles, la betacarde. Et la plupart du temps, les producteurs vont offrir des recettes ou des façons d'apprêter ces légumes-là.
Oui,
et
parce que...
les fruits qu'on retrouve au Québec, la plupart des fermes vont avoir le melon d'eau, le cantalou, la cerise de terre. Certains font des petits fruits, fraises, framboises, bleuets, mais pas tous, parce que ça demande beaucoup de gestion, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de ravageurs, beaucoup de pertes dans ces cultures-là.
Oui.
Mais certains producteurs font une association avec des producteurs de fruits bio et vont les offrir parfois au point de livraison. Donc, il y a assez souvent des fruits dans les paniers.
Une grande variété. En tout cas, vous nous donnez l'eau à la bouche, Isabelle Jonquin. Et ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bien dans cette proposition de recettes qui sont fournies par les fermiers de famille, c'est que souvent, moi, ce que j'entendais, la crainte, c'est le gaspillage, de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? On est deux, on est trois à la maison, avec autant de fruits, avec autant de légumes dans mon panier, je ne passerai pas à travers et finalement, ils vont finir à la poubelle. C'est pas mieux, je ne m'abonne pas.
Effectivement, de plus en plus, on a des fermes qui vont offrir pour les gens qui sont tout seuls ou les gens qui mangent peut-être beaucoup au restaurant ou qui cuisinent pas beaucoup, la livraison aux 2 semaines. Alors ça, c'est vraiment une belle solution d'avoir son panier juste un peu moins souvent puis d'étirer le temps de conservation. Et il faut aussi savoir qu'il y a des fermes qui ont des formats de panier petits, moyens ou gros. Ou des fois 2 formats de panier, le petit ou le plus gros. Donc, ça aussi, ça peut être un indicateur. Là, lorsqu'il y a des paniers à 15, 16, 17, 18 $, bien, c'est des formats de panier. C'est quand même pas trop pour une personne seule. Fait que ça, c'est vraiment adapté. Puis l'autre chose aussi, bien, les recettes, c'est vraiment de façon pratique. Mais on peut aussi, des fois, partager le panier avec quelqu'un d'autre, avec un collègue ou quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de notre quartier. Puis soit chaque semaine, se séparer le contenu ou encore le prendre en alternance. Une semaine, c'est un, puis une semaine, c'est l'autre.
Vous savez, Isabelle, Jean-Sébastien Laliberté à la régie est un petit peu triste parce qu'il aurait beaucoup aimé s'inscrire cette année dans sa région. Il n'y avait déjà plus de place, donc il nous écoute en ce moment. Il est tout tristounet. Vous donnez trop l'envie de s'inscrire au panier bio du réseau Équitaire, du réseau des fermiers de famille d'Équitaire.
Ah ben écoutez, il y a encore plein de fermes qui ont de la place dans plein de régions. Alors, panier avec un S, bio.org, pour trouver au Québec tous les endroits, les points de livraison et puis passer à l'inscription tout de suite. Donc, on paye d'avance et puis on reçoit les légumes après.
Certainement, Isabelle Jonquin. On dirait que vous amenez l'été aujourd'hui au Canalem.
Ah ben avec le soleil, ça aide un peu, oui.
Merci beaucoup, au plaisir de vous reparler.
Merci, au revoir.
Isabelle Jonquin, agronome chargée de projet pour le réseau des fermiers de famille chez Équitaire. Jean-Sébastien Laliberté, qui a tout de même le sourire derrière sa console. Marianne Paquette au micro. On vous redonne rendez-vous dès demain, 14h. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.